Merci d'être là pour notre table ronde, le magnifique thème de conciliation. Comme vous savez déjà, notre focus pendant notre année, ou pendant le temps de carême, pendant l'année de la paix, c'est de demander ses grâces au Seigneur à travers l'intercession de notre Saint Patron Saint-Cloud, de nous accompagner sur ce chemin, de pouvoir accorder le pardon aux ceux qui, dans le passé, nous ont blessés, même si c'est Dieu, mais avec ses grâces, de recevoir la joie de savoir pardonner à la manière que Dieu nous pardonne, notamment avec sa miséricorde, et aussi de faire cette démarche, si c'est nécessaire, de demander pardon à ceux qui ont la conscience de avoir blessé dans le passé, que cette réconciliation n'est pas encore achevée, de poser le premier acte. Donc, pour cela, dans le table ronde, on a choisi le thème de la confession, la réconciliation, pour comprendre comment Dieu nous pardonne, et en recevant cette pardon, cette miséricorde, d'être plus apte, plus disposé de l'accorder avec la même largesse autour de nous. C'est pour cela qu'on a la joie ce soir d'accueillir le Père Craplet, Gaspard Craplet, qui est ordonné prêtre pour le diocèse de Belley-Ars, qui, après son ordination, est devenu membre de la Société apostolique, on peut dire, Société Jean-Marie Vianney, donc, et qu'il est full-time avec cette œuvre, et qui est comme mission de travailler avec le jeunesse, le pasteur de jeunes, donc notamment pendant toutes les vacances, les 4 semaines de vacances, il fait que des camps de montagne pour les garçons ou pour les filles, et quelquefois mixte pour le plus âgé. Et c'est à l'école d'Ur, il m'a raconté qu'il n'y avait pas de chalet qui était chauffé, donc ils ont fait tout avec un tuyau qui venait directement de la rivière, qui faisait 2 degrés, il se touchait dehors. Donc je lui dis, si tu cherches un autre prêtre vous donne un coup de main, ce ne serait pas moi. Donc, mais il travaille beaucoup sur le thème de la relation garçon-fille et aussi sur le thème de la réconciliation. Donc c'est pour cela qu'il a écrit un livre que vous allez pouvoir découvrir à la fin. Sous le confession, et après il fait beaucoup de visites de établissements scolaires de parler de ces thèmes, notamment il a bien profité de son temps ici, il a visité au moins 5 je crois depuis son arrivée dimanche soir, donc il ne chôme pas, et il était notamment à une institution qui s'appelle Saint-Pie X, je ne sais pas, que c'est quelque part pas trop loin d'ici, et à Hautefeuille. Donc peut-être il a même parlé à vos enfants, aux petits-enfants ce matin. Donc on a la joie de vous avoir. Merci mon père pour être là. Et aussi on a la grâce de recevoir ou accueillir quelqu'un qui vient de moins loin, on peut dire, Garches. Eric Libo, qui, comme vous connaissez peut-être pas de son visage, mais vous avez vu sûrement ses œuvres, notamment les spectacles Hurra, Malka et Yeshua. Et apparemment, il était à la recherche d'un 4e spectacle qui finit son A pour compléter la série, mais on est en train de réfléchir là-dessus. Donc, qui a commencé dans une salle paroissiale Vaucresson, Saint-Denis, et qui avait peut-être ambition de faire quelque chose pour le paroisse. Et quoi, 10 ans plus tard, 50 000 spectateurs, l'Olympia, etc.
Ouais, des congrès, des zéniths.
Voilà. Donc, et peut-être, j'imagine, la plupart d'entre vous, vous avez au moins vu un ou deux de spectacles, sinon tous. Et juste pour faire le pub, la prochaine représentation de Yeshua, ce serait le... Oh là là!
Merci.
Ils sont bien dressés, non? Voilà. Donc, c'est le dernier. C'est le dernier des derniers.
Après, c'est terminé.
Mais ce n'est pas pour cela qu'on l'a invité ce soir, parce que aussi, Eric a aussi écrit un livre sous le pardon. J'ai retrouvé mon père, donc une expérience de pardon donnée, accordée, et tous les fruits que ça a produit. Donc il a très gentiment accepté de partager cette expérience, donc ce sera riche. Et la cerise sur le gâteau, on a Aubépine Meunier, paroissien, qui va animer le soir et passer la parole. Donc, merci et je vous laisse commencer. Peut-être on va commencer avec une prière. Ça ne vous dérange pas, non?
Non.
Vous me dites, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint ce soir pour nous éclairer, d'ouvrir nos cœurs à toutes les grâces que tu veux nous accorder. Inspire chacun de venant, donne-lui le langage qui touche les cœurs. Aide-nous, Seigneur, de devenir miséricordieux comme tu es miséricorde, d'aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Et nous, Seigneur, dépasser nos difficultés, nos blessures, nos brisures, afin qu'avec ta grâce, on peut construire ton royaume, qui est un royaume de paix, de réconciliation et de joie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint-Cloud, priez pour nous, notre Père, notre Fils, Saint-Esprit. Amen.
Bonsoir. Donc, soyez tous les bienvenus dans cette église ce soir pour cette table ronde autour de ces deux prophètes de la miséricorde, des apôtres de la miséricorde. La paroisse et le conseil paroissial a fait le choix de faire parler à la fois un laïc et un prêtre. Un laïc parce que sa vie, vous verrez, est un témoignage à la miséricorde de Dieu. Mais à travers le témoignage d'Éric Libaud, c'est peut-être aussi toutes nos existences, si on est là ce soir, qui pourraient être, qui sont déjà des témoignages de la miséricorde de Dieu. On a tous reçu un jour un pardon qui a changé nos vies. On a tous peut-être donné un pardon qui a changé la vie des autres. Et cette soirée, elle est consacrée à ça. À la fois présenter nos vies avec tous les pardons passés et futurs, et à la fois aussi se reposer sur le cœur de Dieu grâce au sacrement de la réconciliation qui est donné par un prêtre. Donc un laïc et un prêtre ce soir pour essayer de visiter ce très beau sacrement, mais aussi de manière plus générale, le pardon de Dieu et sa miséricorde. Pour démarrer cette soirée, je vous propose d'écouter le témoignage d'Éric Libaud, dont la vie a été parfois semée d'épines, mais qui, au gré des années, et les circonstances de la vie lui ont permis aussi de renouer, vous allez voir, avec un personnage très important, et d'expérimenter la miséricorde dans toutes ses dimensions. Et ce témoignage de vie, il ouvre un peu cette soirée, mais il ouvre aussi nos cœurs, avant de poursuivre par un dialogue entre le Père et Éric. Éric, tu as la parole.
Merci, bonsoir. Alors, on m'a demandé un exercice, j'avoue, un peu difficile, puisque d'habitude, quand je témoigne de l'histoire que je vais vous partager, on m'accorde une demi-heure. Alors quand j'ai dit une demi-heure, on m'a dit « oh là là, mais... » Alors j'ai dit un quart d'heure. « Oh là, Bon, donc je vais essayer de faire en 10 minutes. Donc je vais... C'est un exercice très compliqué pour moi. Voilà, j'ai 9 ans. J'ai un frère, une sœur, un papa, une maman, un papa que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup. Je tombe malade. Papa fait beaucoup de choses pour me garder à la maison et que je ne sois pas hospitalisé. Enfin voilà, beaucoup d'attention pour moi. Voilà, la vie vers l'âge de 9 ans, la vie fait qu'un jour au retour de vacances, maman m'accueille au train. Je revenais de chez ma tante en vacances et elle me dit: papa est parti. Il est parti à ses affaires, bon, comme d'habitude. Et je ne comprenais pas qu'à ce moment-là que notre vie venait de basculer. Et papa est parti, mais en fait, je pourrais même dire, depuis ce jour-là, complètement disparu, puisque nous n'avons plus jamais eu de son ni d'image, comme on dit, ni des amis, ni de famille, rien. Comme s'il n'avait jamais existé. C'est étonnant. Et donc, on a appris à se construire. Maman a évidemment pris un choc incroyable. Elle s'est mise à travailler, elle s'est mise à élever ses enfants toute seule. Papa avait laissé des dettes, donc elle a dû faire face à tout ça. Donc une vie qui change complètement. Et puis on se construit, on arrive à l'âge adulte, j'ai des enfants. Et un jour, mon frère m'appelle et il me dit: écoute, j'ai un truc important à te dire. Papa était parti depuis 32 ans, 33 ans, pardon, et il me dit: ouais, il faut vraiment que je te voie, etc. Je trouvais ça un peu surnaturel comme discussion. Puis à la fin, je lui dis: écoute, dis-le-moi, qu'est-ce qui se passe? Et on a retrouvé papa. Donc 33 ans après, il est revenu, il nous est revenu, l'invraisemblable ressurgit. Alors évidemment, c'est les larmes tout de suite, et surtout tout de suite l'envie de le revoir. Alors je vous passerai tous les détails, les péripéties, comment on l'a retrouvé, pourquoi, comment, c'est un chemin absolument invraisemblable. Et tout de suite, donc, le désir de le revoir. Donc, avec ma sœur, un jour, bon, au début, papa n'était pas d'accord parce qu'il pensait bien évidemment qu'on allait lui régler ses comptes. C'est pas du tout ce que nous avions dans le cœur. Donc, on retourne voir papa qui était qui a été récupéré par le SAMU parce qu'il a eu un malaise. Il était en province, près de Lyon, dans une maison médicalisée. Et début d'une maladie dégénérative, enfin bon, voilà, donc très très mauvaise santé. Et donc nous retournons le voir avec ma sœur. Et quand nous sommes rentrés dans sa chambre, alors d'abord 33 ans après, vous imaginez que ma sœur m'a dit j'ai cru qu'on s'était trompé de chambre, tellement on a eu du mal à le reconnaître. Moi j'ai reconnu son sourire. Et puis tout de suite les premiers mots: j'ai tout raté. Et l'aumônier qui était là, qui m'a servi de relais, qui était très précieux pour moi après, m'a dit: il culpabilise énormément. Et je trouvais devant moi un homme accablé par le remords, accablé par la douleur, la souffrance. Et donc très rapidement, je lui ai dit: est-ce que pour toi la réconciliation avec Dieu est quelque chose d'important? Papa avait été chef scout, enfin voilà. Et il me dit oui. Et je ne sais pas pourquoi je lui ai posé, c'est une des premières questions que je lui ai posées, mais j'avais vraiment ça dans le cœur parce que je voyais qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça. Papa, l'aumônier m'a dit: n'allez pas trop vite, laissez-lui faire son chemin. Et donc j'ai laissé faire les choses. Et un soir, quelques mois plus tard, semaine sainte, j'étais pas là, mais l'aumônier me laisse un message. Il me dit: nous avons lu ensemble la Passion. Votre papa, après ça, a reçu le sacrement de réconciliation. Et quand il est remonté dans sa chambre, il était transformé. Je lui ai dit, me dit-il, vous êtes ressuscité. Et ce que j'ai vu, c'est que le redressement de papa, spirituel, s'est accompagné d'un redressement également physique, médical. Les médecins qui lui avaient posé une sonde m'avaient dit: on ne pourra pas lui retirer, enfin, c'est définitif. On lui a retiré. Et la fois d'après, quand je suis allé le voir, Il était, par la maladie, cassé en deux, il était en équerre. Et je l'avais jamais vu, donc droit. Et tout d'un coup, je le vois prendre les deux montants de son lit. Il s'est redressé, tout droit. Et il m'a dit, je sens de l'amour monter en moi. C'est le premier cadeau, j'en ai reçu plein. Je ne pourrais pas tout vous détailler, parce que sinon je fais la demi-heure. Et alors après, très rapidement, voilà, le chemin a continué, ce chemin spirituel. Et puis il y avait maman de l'autre côté, parce que maman, évidemment, elle n'était pas encore au courant, et mon frère et ma sœur n'étaient pas prêts pour qu'on lui annonce. Elle me dit, ça va être un choc terrible pour elle. J'étais convaincu que non, mais j'ai attendu, j'ai patienté. Et puis un jour, j'ai annoncé à maman, on a retrouvé papa. Sa première réaction, c'était, comment va-t-il ? 33 ans après, de souffrance, comment va-t-il ? Mais je n'irai jamais le voir. La semaine d'après où j'allais la voir, elle me dit, bon, quand est-ce qu'on va voir ton père ? Parce qu'il faut bien que je fasse cette corvée. Alors vous avez noté, mon père, pas son mari, et corvée. On prend date, et quand j'étais la chercher pour aller voir papa, elle était habillée comme à un bal, pour aller à un bal. Elle était chez le coiffeur, elle avait un bouquet de fleurs dans les mains. Et plus tard, je verrai, comme ils aimaient bien la bonne cuisine, qu'elle avait préparé des gâteaux dans son sac. Pour une corvée, ça démarrait plutôt pas mal. Sur le chemin, elle parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. On arrive là-bas. Je monte voir papa. Et papa, ce jour-là, est très bavard. Puis je me rends compte au bout d'un certain temps qu'en fait, il veut gagner du temps. Et maman fait la même chose en bas avec l'aumônier. Donc à un moment donné, je me dis, allez, on s'arrête. Et je dis à papa, on va chercher maman. Et donc je monte avec maman, on rentre dans la chambre. Et à ce moment-là, j'ai assisté à quelque chose où, de très privilégié, j'aurais voulu qu'on soit des millions à voir ce que j'ai vu. Papa était assis dans son fauteuil, maman debout. Ils ont planté leurs yeux les uns dans les autres, dans le silence. Et ce que je peux vous dire, il y avait un sourire accroché à leur visage. Et ce qu'il y avait dans leur regard, c'était de l'amour. Le silence a duré, puis au bout d'un certain temps, maman l'a rompu en disant, papa et maman se voyaient à l'époque, « Vous me reconnaissez ?»« Comme si c'était hier, » répond papa. La phrase magique. Tout d'un coup, les 33 ans de souffrance n'était pas effacé, mais tout d'un coup était guéri par ce geste d'amour, par ce pardon échangé par un regard. Et puis après, bon, l'histoire a continué. Maman, sur le retour, m'a dit « Jamais je ne retournerai le voir ». Évidemment, on y est retourné pour fêter les 80 ans de papa, etc. etc. Et puis évidemment, papa a fini, nous a quittés un soir de décembre, et voilà, et tout ce redressement, en fait, ce que j'évoquais, spirituel, qui s'est accompagné de ce redressement physique, et qui a eu comme point de départ cette réconciliation.
Voilà. Merci Eric. On voit qu'effectivement le sacrement de la réconciliation ou la présence de Dieu peut être source d'un surcroît d'amour à son égard à lui, mais surcroît d'amour aussi à l'égard de votre maman. Si je vous pose la question, Père, de savoir, est-ce que vous avez, vous, une expérience de pardon familial ou de pardon spirituel qui vous a marqué et qui a un petit peu initié votre parcours spirituel et le travail que vous faites aujourd'hui sur les jeunes?
Alors, il m'est arrivé quelque chose qui, je ne sais pas si ça l'a initié, mais maintenant, quand je parle du pardon, j'aime bien le citer, pour parler de l'amour de Dieu pour nous. C'est une bêtise que j'ai faite quand j'avais 20 ans. Je conduisais la voiture des parents et le contrat, c'était, puisque j'utilise la voiture pour travailler et gagner de l'argent, c'était moi qui devais mettre de l'essence. Comme c'est moi qui mettais de l'essence, j'essayais d'économiser l'essence. Et dans un virage, un peu sur le trajet qui était un peu raide, j'avais remarqué que si je ralentissais trop, il fallait que je réaccélère derrière et que ça utilisait de l'essence. Et donc je prenais le virage le plus rapidement possible pour faire des économies. Un jour il a plu Et là, je suis allé tout droit. Je suis passé juste à côté de la pile d'un pont. D'après le garagiste, je serais mort s'ils avaient touché la pile du pont. J'ai coupé un poteau de télégraphique, là, et qui a explosé la voiture par le milieu. Et ensuite, j'ai fait des tonneaux dans un ravin. Je me rappelle, j'ai commencé par couper la musique. Ensuite, j'ai sorti par les fenêtres qui étaient cassées parce que plus rien s'ouvrait. Je suis remonté le talus. Je suis rentré en stop à la maison. Et j'ai dit aux parents, la voiture, elle est destroy, complètement. Donc, ils ont tout de suite compris qu'en fait, j'aurais pu mourir. Et ils ont tout de suite dit, elle coûtait trop cher, cette voiture. Elle était foutue. On s'en fiche. Alors que c'était pas vrai. Hein. C'était une voiture offerte par ma grand-mère. C'était... Et un dîner magnifique, un super dîner. Voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'y pense régulièrement dans le sacrement du pardon. En fait, Dieu se réjouit. Et la parabole de l'enfant prodigue, qui est complètement folle, Dieu qui donne le vêtement, la bague, les sandales. Voilà. C'est Dieu, il est bien mieux que mes parents. Il est un amour fou de Dieu pour nous, qui nous attend. Et voilà, ça m'a marqué. Alors, après, à titre personnel, dans le cadre de la confession, je me revois encore une fois, ayant un peu honte de péché que j'avais fait. Je me confesse, et donc je dis le truc un peu difficile, et le prêtre fait « Gloire à toi, Seigneur !» Non, je me suis dit « Mince, il n'a pas compris. » Parce que s'il n'a pas compris, il faut répéter. Et il fait « Gloire à toi pour l'humilité de Gaspard !» Je dis « Ah oui, non, il a bien compris. » Donc, voilà un petit peu ce que j'ai.
Mais alors justement, on a toujours un peu ce sentiment de... On peut avoir ce sentiment d'un Dieu juge. Et donc, on est, nous, des justiciables ou des serviteurs. Et on n'a pas du tout comment faire, comment est-ce que vous pouvez nous conseiller, justement, pour essayer de faire en sorte de passer du Dieu juge au Dieu père qui attend ses enfants désespérément dans ce sacrement.
Les paroles de Jésus sont très nettes. Dans Saint-Luc, il y a les fameuses paraboles de la miséricorde. Donc, je vous ai cité l'enfant prodigue, mais ça, c'est la dernière, la troisième. La première, c'est la brebis égarée. Une brebis qui s'est égarée. Dieu dit, je laisse les 99 brebis et je vais chercher la brebis égarée. Moi, ce qui me frappe, c'est que la brebis égarée, elle ne fait aucun effort pour essayer de revenir. Et il la prend sur ses épaules. Je trouve ça antipédagogique, parce que moi, je fais des camps. Si celui qui se barre, je ne lui mets pas une rouste, ils vont tous se barrer. Hein, en disant, ah bah, si on s'en va, il nous prend sur ses épaules. Alors, allons-y. Non. Bon, bref, donc Jésus, il a cette parabole pour montrer cet amour fou pour une personne. La parabole d'après, c'est une dame qui nettoie, qui a perdu 10 pièces d'argent. Donc on a perdu 1 sur 10. Et là, vous voyez, on est passé de 1%. Donc là, on n'est pas concerné. 1%, pas nous. 10%, c'est pas nous non plus. On fait partie des 90% qui n'ont pas besoin, nous. Puis après, il y a la parabole de l'enfant prodigue. 50%. Un homme avait 2 fils, il y en a un qui est perdu, l'autre... 50%, 1 sur 2, là, c'est juste là, et les autres, voilà. Et puis, à la fin de la parabole, on s'aperçoit que le fils aîné est perdu aussi, à tout le monde, voilà. On a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et évidemment, moi, je viens d'Ars, et le curé d'Ars, déjà à l'époque, il prêchait sur cette miséricorde infinie de Dieu. Il disait, nos fautes sont comme un grain de sable à côté de la montagne de la miséricorde de Dieu. Et il disait aussi, la miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé qui emporte tout sur son passage. Et moi, évidemment, je suis fan de la messe comme tout prêtre. La messe, le pain et le vin deviennent Jésus, deviennent le corps et le sang du Christ. C'est incroyable, Dieu agit, quoi. Mais dans chaque confession, Dieu agit. Il nous transforme, il nous refait complètement à neuf. Et ça, c'est une miséricorde incroyable qu'on ne peut même pas imaginer. D'ailleurs, il y a des gens qui disent « Non, la confession, c'est trop facile. Tu dis tes péchés, t'es pardonné, c'est trop facile. » Alors, d'abord, c'est pas facile. Et ensuite, raison de plus, si c'est facile. C'est le père Cantalamessa qui disait « Si tout d'un coup, à Rome, quelqu'un disait « Allez dire à tous les pauvres qui peuvent venir, ils seront nettoyés, coiffeurs gratuits, la barbe, tous leurs fringues seront jetées et on leur fait tous des habits sur mesure, ceux qui veulent. » Eh bien, les gens, il n'y en a pas un qui viendra. Ils diront tous, mais non. Eh bien, si.
Mais alors, si Dieu est tellement miséricordieux, Est-ce qu'on ne peut pas discuter directement avec le Seigneur, se mettre d'accord devant le Saint-Sacrement, dans une prière silencieuse ou dans une prière du soir, en reconnaissant effectivement notre humilité et notre finitude, plutôt que d'aller passer par cette démarche d'aveu à l'égard d'un prêtre ou face à un prêtre?
Alors, ça, c'est classique. De se dire, moi je préfère me confesser directement à Dieu, voilà. Simplement, Jésus, il a voulu qu'on se confesse à une autre personne. Bon, déjà dans Saint Jacques, c'est marqué « Confessez vos péchés les uns devant les autres ». Alors, on peut faire cet exercice si vous voulez, chacun dit tout devant tout le monde. Bon, c'est le philosophe Pascal qui dit « Finalement, Dieu est sympa, il a prévu qu'on dise les péchés à une seule personne, non pas devant tout le monde, et en plus une personne qui est tenue au secret absolu ». Bon, déjà, voilà. Mais ensuite, c'est Jésus, le soir même de la résurrection, il a donné le pouvoir de confesser aux apôtres en leur disant « Tout ce que vous aurez remis sur la terre sera remis dans le ciel. Voilà. » Recevez l'Esprit Saint et voilà, vous recevez ce pouvoir de pardonner les péchés. Et les premiers chrétiens ont compris que pour pardonner les péchés, il fallait que les apôtres le connaissent. On ne peut pas remettre un péché qu'on ne connaît pas. Et donc, il fallait le dire aux apôtres. Et c'est ce qu'on voit dans le développement de l'Église, petit à petit, puis ensuite les prêtres. Et donc, il faut dire ses péchés. Mais en fait, c'est une miséricorde. C'est-à-dire que, je pense qu'Éric pourra en revenir dessus, mais il s'agit quand même d'avoir ce contact. On aurait pu pardonner sans se déplacer. Vous pourrez en dire un mot, mais et là, Dieu, il a voulu qu'on vienne dire les péchés. Luther, il disait que la confession, ce n'était pas un sacrement. Mais il disait, confessez-vous quand même, parce que ça fait du bien de dire ses péchés. Alors, si vous savez que ce n'est pas un sacrement et que vous n'êtes pas pardonné, mais c'est important. Et j'ai une étudiante en psychologie qui m'a dit, finalement, on fait un peu le travail des prêtres, quoi. En fait, on écoute les gens, ils nous disent tout le mal qu'ils ont fait. Ben, voilà. En fait, on a besoin de le dire. Mais ce n'est pas le seul truc. Nous, c'est important de le dire. Mais on a besoin d'entendre un pardon, une parole. Entendre, là aussi, Eric pourra dire. On a besoin de quelque chose d'objectif aussi, une parole. Et quand moi, je donne le pardon et je dis... Et le Seigneur te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a une joie qui se lit. Et alors moi, je confesse surtout des jeunes, mais souvent, ils disent « Merci, mon Père ». Alors, ça me fait toujours marrer parce que moi, j'ai rien fait. Moi, je pardonne pas. Moi, je fais le signe de croix, je dis un mot, ça va, quoi. Mais c'est Dieu qui fait. Mais merci, mon Père. Et quelquefois, il me serre la main. Merci beaucoup. Quelquefois, même sur l'épaule. Merci. Parce que à cause de la parole objective, c'est objectif, Dieu valide. Voilà. Et ça nous fait du bien. On a besoin d'une parole de Dieu objective qui nous dise franchement, je te pardonne.
Oui, c'est très beau. Et Eric, est-ce que vous pouvez témoigner aussi de cette joie qui est un des fruits du pardon ?
Oui, mais je pourrais dire, pour compléter ce que vient de dire le Père, moi, je pense qu'on a tous expérimenté dans nos vies la grâce du sacrement, quel qu'il soit. Le sacrement, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et je pense que si on demande à un enfant, ben voilà, c'est bientôt Noël, qu'est-ce que tu préfères ? Soit choix A, tu passes un coup de téléphone à ton parrain et vous discutez ensemble. Choix B, tu vas chez ton parrain, il va te donner un cadeau. Je pense que 100% des enfants, ils vont chez le parrain. Et en fait, c'est ce qu'on oublie bien souvent, c'est-à-dire que parler à Dieu, oui, c'est très important, et c'est une nourriture, c'est un échange, c'est un dialogue avec un ami, mais la grâce que l'on reçoit, moi j'en ai été témoin, je pense encore une fois, chacun d'entre vous est peut-être témoin d'avoir reçu des grâces, le sacrement des malades, l'Eucharistie, enfin que sais-je, je ne fais pas tous les... Mais, et donc dans le sacrement de réconciliation, effectivement, la joie... Et puis, je dirais, parce que pour moi, je lis beaucoup ça au pardon, parce que finalement, pourquoi le pardon ? C'est qu'il y a une quête, quelque part, qui est celle de la paix, et que le sacrement, enfin, en tout cas, la réconciliation, est cette belle promesse de trouver cette paix intérieure, voire, quand c'est un pardon donné à quelqu'un d'autre, de lui offrir ce cadeau.
En fait, vous transmettez la paix par le pardon que vous donnez.
Oui, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on ne Déjà, quand on ne se pardonne pas, quand on ne pardonne pas, on vit dans les remords, dans les ressentiments, et on n'en sort pas, c'est une gangrène. Et encore une fois, la blessure, elle existe. Le pardon, c'est pas de dire on efface. Non, ça, ce serait un mensonge. Ça existait, mais on peut vivre, c'est comme une cicatrice. Moi, je pense souvent cette comparaison. Est-ce qu'on veut pouvoir vivre avec? On ne l'effacera pas. Ou est-ce qu'on veut la laisser suintante? Le pardon est ce baume qui permet de guérir cette cicatrice et de vivre avec, et donc de faire fuir le ressentiment et de trouver cette paix intérieure, et peut-être de faire un beau cadeau à l'autre pour le libérer là aussi dans ce quoi il est emprisonné.
Donc vous êtes en fait acteur de la libération de l'autre.
Ah oui, oui, moi je pense que c'est... Mais on oublie trop souvent que c'est une libération pour soi. Enfin, c'est-à-dire que moi j'ai l'occasion de beaucoup témoigner devant des jeunes, et c'est ce que je leur dis, c'est que c'est difficile de pardonner. Enfin, parfois, bon, parfois c'est plus simple, mais parfois c'est très, même pour des petites choses, c'est très très compliqué. Mais pardonnez-moi l'expression, mais on peut se pourrir la vie à garder en soi quelque chose qui est vraiment du ressentiment, d'en vouloir, et ça travaille, et ça ronge. Et donc on se fait un cadeau aussi à soi-même de libération. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de la paix, c'est de trouver cette paix intérieure et de l'offrir aussi à l'autre.
Du coup, quand on a vraiment du mal à pardonner, est-ce que vous pensez que le fait d'aller rechercher le sacrement de la réconciliation peut déployer en fait notre propre capacité à pardonner?
Oui, moi je pense que la confession, ça apporte quelque chose de... à nous-mêmes, mais du coup, ça fait rayonner. D'ailleurs, je pense que la joie, quand on dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit, Dieu, il y a bien sûr une joie parce qu'il retrouve son enfant bien-aimé, mais il y a aussi la joie par ricochet, en pardonnant et en retrouvant son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée, il sait que ça va rejaillir sur tous les autres qui sont autour, et il se réjouit déjà, du coup, du bonheur qui va être mis, de la paix qui va être mise autour. J'aime bien dire qu'il y a quatre joies. La joie de Dieu, quand on va se confesser, oui. La joie de celui qui est pardonné, ça c'est sûr. Mais la joie de tous les autres qui sont autour aussi. Et c'est pour ça que dans les camps que j'organise, avant, au tout début, j'étais encore pas très doué, je terminais par la confession. On terminait les deux derniers jours, c'était, fallait le temps qu'il se prépare, fallait le temps que... Mais quand j'ai vu que l'ambiance du camp changeait complètement grâce à la confession, bah c'est terminé. Moi, je mets la confession, ils arrivent le samedi, le dimanche, il y a topo confession, dimanche soir, confession pour tout le monde. Ah bah, autant qu'on profite de la bonne ambiance du camp. Et ça me rappelle ma mère qui, quand j'ai commencé à me convertir, j'ai commencé à aller me confesser. Et ma mère, alors c'était un peu désagréable, mais de temps en temps, elle disait, eh ben ça te fait du bien la confession, hein. C'est bon pour tout le monde, hein, voilà. Parce qu'effectivement, c'est bon pour toute la famille, pour tous ceux qui nous entourent. Et quelquefois, quand on pêche, on se dit « Oh, c'est pas grave ». Et c'est Bernanos qui dit « Nos mauvaises pensées empoisonnent l'air que d'autres respirent ». Au contraire, quand on va se confesser, on peut dire cette phrase de Elisabeth Le Sœur « Toute âme qui s'élève, élève le monde ». Et on fait du bien pour tous les autres. Et je dirais qu'il y a une quatrième joie, et ça on l'oublie trop, c'est la joie du prêtre. Les gens se disent, le pauvre prêtre, on va lui dire nos péchés, ça vous démoralise pas, quand même. Mais le prêtre, plus on dit des trucs graves, plus il est content. Ben, il est content de servir à quelque chose. J'ai un ami qui est urgentiste. Et qui, aux urgences, quelquefois il reçoit un jeune qui s'est pris un platane, qui est en 1000 morceaux, et je vais dîner chez lui le soir. À chaque fois, il me dit, j'ai sauvé quelqu'un. Voilà. Il était complètement... Et 4 heures d'opération, on l'a sauvé. Mais jamais il m'a dit, j'ai encore opéré un abruti qui s'est pris un arbre. Jamais il m'a dit ça. Non, il se réjouit. Eh bien, le prêtre, c'est pareil, il se réjouit. Et un jour, j'ai fait un week-end avec des étudiants. Alors, c'est pas moi qui ai organisé. Des étudiants qui m'ont demandé de venir. Parce qu'en ski de randonnée... comme j'ai des skis, que je suis prêtre et que j'ai du matériel, ils m'aiment bien. Voilà, c'est pas par... Et donc, ça leur évite de descendre dans la vallée pour la messe. Bon, on construit l'hôtel pour célébrer la messe, et il y a une fille qui me dit « Quel week-end extraordinaire, mon père, vous trouvez pas ?» Et moi, j'ai dit, non, moi, je trouve pas. Bah, comment ? Bah, je dis, vous êtes 40, aucune confession, zéro. Alors, je suis venu pour rien, voilà. Parce que le prêtre, il donne sa vie pour répondre le pardon, et les gens n'ont rien à cirer. Alors, ça lui a bouché un coin, puis moi-même, je me suis auto-énervé tout seul. Et ensuite, on célèbre la messe, et j'ai, bien sûr, comme souvent, j'avais surtout pas pensé à la sécurité, tout ça, mais pas trop à l'homélie. Et donc, j'avais pas trop préparé l'homélie. Les textes, c'était des textes impeccables pour une prédication sur la confession. Et là, j'ai envoyé du lourd. Et du coup, et puis je leur ai dit, et dire que les gens, ils ont un prêtre, et ils vont pas se confesser. Et je sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai pas arrêté de confesser jusqu'à la fin du week-end. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que pendant le pique-nique, j'ai pas pu pique-niquer, et qu'ils venaient tous se confesser avec un petit toast. Voilà, chacun apportait une peu de nourriture au pauvre prêtre qui j'ai dû en confesser 40 entre la messe et la fin du week-end. Donc c'était voilà.
Donc vous arrivez à transformer, mais finalement, quels sont, à votre avis, avant que vous ne fassiez cette homélie, quels sont, selon vous, les principaux obstacles qu'on a toujours en tête et qui nous bloquent un petit peu dans ce chemin vers ce sacrement?
En fait, l'obstacle principal, je trouve que c'est de dire les choses franchement. Pour se confesser, il faut dire les choses franchement. Je pense que Eric pourra dire les... Mais il s'agit de parler franchement, et c'est ça qui est rejailli. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, sortir, et on n'a pas envie. Voilà. Et du coup, on laisse pourrir. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qu'on a faits, on laisse fermenter tout ça, et on a du mal à le dire. Un peu comme quelqu'un qui s'est fait mal, il est tombé à vélo, il y a des blessures, mais il y a aussi des graviers... Et on a envie de mettre le pansement direct dessus. Eh non, il faut nettoyer. Et là, ça fait mal. Eh ben oui, mais si tu nettoies pas, ça va suppurer, c'est sûr. Il faut pouvoir donc dire les choses. Et ça, c'est très compliqué. Et un jour, je vais dans un lycée et je vois des jeunes qui sont assis sur un banc. Enfin, pas comme vous, hein, ils sont assis sur le dossier du banc. C'est toujours comme ça, les jeunes, ils ne peuvent pas être sur le banc, ils sont sur le dossier, bon. Et je vois qu'ils se moquent de moi, classique. Moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je mets le cap dessus... Bonjour. Alors, ils deviennent très gentils tout d'un coup. Et puis, ils me disent, vous venez pour les confessions? Je dis, oui, je viens pour les confessions ce soir. Et alors, je sais plus où on parle. Et puis, comme ils m'avaient un peu agacé à se moquer, j'y vais un peu franchement. Et puis, je dis, ben, le problème des confessions, c'est que les gens, ils vont se confesser, mais ils disent pas les péchés. Ou alors, ils disent les petites annexes, quoi. Mais tous les péchés graves, ils ont honte, donc ils le disent pas. Oh non, non, je dis pas. Donc... Bah du coup, la confession, bah, elle n'est pas valide, quoi. Et puis, en plus, ils se moquent de Dieu. Et je pars. Là, il y en a un qui me suit. On peut se confesser dès maintenant? Ah, je dis, oui. Ah, on s'installe, il se met à genoux. Puis je vois qu'il était stressé, donc pour le mettre à l'aise, je lui dis, de quand date ta dernière confession? Parce que c'est vrai que ce n'est pas pareil. Une semaine ou... Il me dit, une vraie confession où on dit tous ses péchés, ce sera la première de ma vie.
Mais ça veut dire qu'il y a quand même une appréhension, sur le fait d'arriver à dire les choses.
Oui, en fait, la préhension principale, je veux dire, c'est pour ça qu'on parlait de se confesser directement à Dieu, c'est qu'on a peur, de voir la personne. Et vous pourrez peut-être dire un mot sur l'appréhension de voir. Parce que, et d'ailleurs, votre maman a dit, ben, c'est la corvée de voir. Et là, on se dit, mais parce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est comment l'autre va réagir. Alors, on ne maîtrise pas ça. Et on se dit, le prêtre, il va grimper au rideau. Et il va dire, mamma mia, ça se trouve, il va sortir du confessionnal en disant, oulala, puis tout le monde va se tourner. Ben, on s'imagine plein de trucs. Voilà. Et alors qu'en fait, eh bien, ce dont il faut bien se persuader, c'est que le prêtre se réjouit. Alors, moi, je raconte aussi cette conversion du lieutenant Darberg, qui était prisonnier en Allemagne. Il était anticatholique notoire, il était contre tout, et il entend parler de Notre-Dame de la Salette. Un prêtre parle des apparitions à la Salette, et il en parle tellement bien que tous les soldats pleurent, tout le monde est touché, et lui, il est touché aussi. Mais ça l'énerve d'être touché. Et donc, au bout de 4 jours, il va voir le prêtre et il fait je vais aller voir sur place. Alors le prêtre lui dit, j'espère que la guerre finira bientôt. Non, non, je m'évade ce soir. Votre Sainte Vierge, si elle est vraiment apparue, elle pourra m'aider dans l'évasion. Je pars, je vous dirai, je vous enverrai une carte postale. Il réussit son évasion, il arrive à la Salette, et là, il se convertit et il va se confesser. Il trouve un prêtre, il se met à genoux, il commence à dire ses péchés, et le prêtre, à chaque péché, il fait « Bien ». Alors, il est étonné, du coup, il y va un peu plus franchement. « Bien ». Alors, du coup, il dit un péché qu'il ne pensait pas dire, qu'il comptait bien garder dans l'arrière-boutique. « Très bien ». Alors, il ressort le vieux truc de son enfance. Jamais il aurait pensé que... Mais il se dit « L'occasion est trop belle, allez, chuit, on emballe ». Et le prêtre fait « Parfait ». Mais mon père, c'est pas parfait ce que j'ai fait. « Oh mon fils, c'est parfait ce que Dieu est en train de faire dans votre cœur. Voilà. » Mais nous, on a peur de la réaction. Et c'est pour ça que moi, dans les topos, j'aime bien raconter cette histoire et puis d'autres, pour mettre les gens à l'aise. Il y a un jeune qui m'a dit la semaine dernière, « Alors vous, vous mettez à l'aise, hein ?» Voilà. Ben oui, parce que sinon, on a peur. Et c'est vrai que dans le pardon, il faudrait qu'on puisse mettre à l'aise pour qu'il puisse y avoir cet échange. Sinon, en fait, on est plein de peur. Et j'imagine qu'il y avait cette peur avant.
Oui, bien sûr. Moi, j'ajouterais que si on a cette peur aussi, c'est que on a un regard terrible sur soi-même. C'est-à-dire que on pense qu'on a fait est énorme et on se juge. Et je l'ai vu notamment avec papa, ce que je vous évoquais tout à l'heure, le poids de la culpabilité qui ferme toutes les écoutilles et toute la réconciliation possible avec l'autre ou avec Dieu. Et moi, je pense souvent à cette phrase d'évangile où Jésus nous dit « Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. » Alors évidemment, on pense tous qu'évidemment, si notre œil nous porte au péché, on voit des choses pas belles, etc. Bon, d'abord, on serait tous borgnes dans cette assemblée, tous. Mais en fait, je pense vraiment que la première chose à laquelle Jésus nous invite, c'est sur cet œil, c'est de commencer par porter un regard bon sur nous-mêmes, parce que lui porte un regard bon sur nous-mêmes, et que par ce jugement que nous avons de nous-mêmes, en fait, on se décale de Dieu, et c'est ça aussi qui crée la différence, alors que Dieu, il n'a pas ce regard aussi dur sur nous. Et moi, cet évangile et cette invitation de Jésus, je pense qu'elle est avant tout pour qu'on nous inviter à être quand même beaucoup plus bon avec nous-mêmes. Et je l'ai vraiment vu avec papa de façon tellement forte et j'allais presque dire violente, quoi. Ça enferme complètement, quoi. On s'enferme complètement. Et comme vous le disiez, on attend, vous citiez les vieux péchés. Ben oui, les vieux péchés, on a tellement mis dessus une espèce de couvercle parce qu'on en a tellement honte. Mais Dieu nous aime, et c'est nous qui mettons ces mots-là sur ces péchés-là. Donc je pense que ça aussi, c'est le frein pour aller se confesser, c'est d'abord d'avoir un regard bon sur nous-mêmes, meilleur.
Oui, d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, le diable est appelé l'accusateur. On l'appelle l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit. Donc quand on s'accuse en disant « je suis nul, je suis humain », en fait, on fait le jeu du diable.
Ben oui.
Parce que Dieu, de fait, n'a pas du tout ce regard sur nous.
Même s'il y a une certaine un manque d'originalité dans les péchés qu'on fait. C'est-à-dire que si les choses se répètent et se répètent et se répètent, on se dit parfois, on peut être l'objet d'un découragement qui fait que...
Heureusement qu'on n'a pas quand même une diversité de péchés à explorer tous les péchés qui existent sur la terre.
C'est sûr.
Je trouve ça plutôt réconfortant de dire qu'on fait toujours les mêmes.
Oui, et moi je dis souvent aux jeunes la même chose. Je leur dis, vous n'êtes pas là pour innover.
Hein. Oui.
À mon père, j'ai fait un péché que j'avais jamais fait. Non. Et puis moi je leur dis aussi, allez pas voir les autres pour avoir des nouvelles idées. Non plus. Mais par contre, j'attire votre attention sur un point. C'est que quand on dit qu'on fait toujours les mêmes péchés, c'est une erreur théologique qui est importante, parce que un péché, on confond en fait le péché pratique, réel, le péché, et l'idée du péché, le péché théorique. Alors oui, c'est toujours la même catégorie de péché, mais un péché, c'est un acte qu'on a posé à un moment donné dans le temps. Et donc c'est impossible métaphysiquement de refaire le même. Impossible. Donc les gens qui disent « je fais toujours le même péché », c'est impossible. Vous faites la même catégorie, mais ce n'est pas le même péché. Et, si vous... et c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'apporter de la précision. Moi, je ne suis pas marié, mais ceux qui sont mariés, et j'imagine que de temps en temps, ils se demandent pardon. Si vous demandez pardon à l'autre en disant « pardon, comme d'habitude », ça ne marche pas. Enfin, ça n'a pas de... Moi, j'aime bien dire que quand on se confesse, il faudrait que le prêtre ne puisse pas dire « moi aussi ». Si le prêtre dit « moi aussi », c'est que vous êtes trop général. J'ai du mal à prier. Moi aussi. Il y a des gens qui m'énervent. Moi aussi. Par contre, si vous dites « et j'étais orgueilleux, j'ai laissé traîner ma fiche de paye dans le salon », le prêtre ne va pas dire « moi aussi » parce que... Ouais, on a été précis. Et d'ailleurs, c'est bien de dire les péchés au passé. J'ai fait. Il y en a qui disent je vole. Moi, je m'écarte. Hein. Oula. Je frappe. Ah, non, j'ai passé. Un jour, il y a un jeune. Il vient me voir. Il m'avait entendu en topo sur le fait que le prêtre est toujours disponible pour confesser. Toujours. Parce que les gens, ils n'osent pas déranger. « Ah, mais je ne veux pas vous déranger. » Vous imaginez que le boulanger là, du coin de la rue, il fait faillite. Et vous lui dites « mon pauvre, vous avez fait faillite. »« Bah ouais, personne ne vient acheter mes croissants. »« Ah bon ? Ah mais on n'osait pas vous déranger. » Ah, non. Donc là, le jeune, il vient me voir et me dit « Père, je peux me confesser maintenant ?» Donc moi, je me discipline. Toujours, je dis « Oui, toujours !» Oui, super. Et il part en courant. Alors, j'ai été surpris. Il revient avec son téléphone et il me dit « En fait, comme je fais toujours les mêmes, j'ai ma liste. » Je dis « Non, mamma mia, non.
» Est-ce que vous pensez justement, peut-être Eric, est-ce que vous pensez que là, justement ce pardon peut... guérir vraiment des blessures intérieures profondes?
Ah oui, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est la quête d'une promesse qui est celle de la paix intérieure. Et ce chemin-là est peut-être très très douloureux. Il y a une forme de dépouillement complet. Bien sûr, le chemin de la réconciliation, il est pas simple. Récemment, je témoignais devant des premières dans un lycée, et il y a une jeune fille à la fin qui vient me voir. Alors, j'ai toujours des très bonnes questions, enfin, c'est étonnant de voir la maturité sur ces aspects-là, sur le pardon, etc. C'est étonnant, ils n'ont pas tous les freins que nous avons, nous, adultes. Et il y a une jeune fille qui, après, une fois qu'ils étaient tous partis, qui est venue me voir, et qui m'a dit qu'il lui est arrivé quelque chose de, visiblement d'assez grave dans sa vie à ce moment-là. Elle se met à fondre en larmes. Mais quand il fondre en larmes, j'ai rarement vu quelqu'un pleurer comme ça. C'était une fontaine, quoi. Et entre deux sanglots, elle ne m'a dit qu'une chose. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. Et en fait, on se sent d'abord très, très impuissant, mais en même temps, je trouve ça assez merveilleux parce que ça veut dire une chose. Ça veut dire que cette jeune fille... elle s'était mise sur le chemin. C'est un chemin qui peut être long, qui peut prendre du temps, qui peut être douloureux, la preuve, mais qui est effectivement salvateur. Et si on le prend malgré toutes les embûches, il est tellement contre nature, finalement, de dire « mais je vais aller contre l'évidence, j'ai été blessé, et quelque part c'est à moi, c'est ce que fait Dieu, d'aller rechercher la brebis, en fait, et lui dire « finalement, malgré ce que tu as fait, je vais poser un acte d'amour. Waouh !» Mais en fait, ces jeunes-là, cette jeune fille, elle était dans ce combat intérieur, mais ce qui veut dire qu'elle était déjà sur ce chemin, et que ce chemin-là, effectivement, elle l'a pris parce qu'elle entrevoit la lumière qui l'attend, cette lumière de joie et cette lumière de paix. Oui, ça, c'est ma conviction absolue. Oui.
Et vous, Père, vous avez été témoin aussi de guérison intérieure profonde.
Oui, en fait, dans les camps que j'organise, comme j'insiste finalement que je suis un peu fan de la confession, évidemment j'en parle, en fait, pour être tout à fait franc avec vous, je mets plusieurs couches, parce qu'il faut plusieurs couches, donc il y a le topo du dimanche, je remets une couche le lundi, et puis le jeudi, donc je reparle, parce que c'est la fin du camp, et je remets une couche, alors, je ne vais pas vous faire tous les topos, mais des couches différentes, et j'ai des retardataires, les retardataires de ceux qui ne sont pas confessés depuis très longtemps. C'est plutôt les gros poissons qui ont un peu de mal à faire cette démarche. Puis à la fin, voilà, il finit. Mais quand les jeunes me disent au revoir sur le quai de la gare, souvent, ils disent juste et remercient pour un mot. Alors, on a fait des igloos, on a célébré des messes sur des sommets, on a tout redescendu en luge à fond, on a fait des tremplins, Et ils disent merci pour la confession. Voilà. Merci pour la confession. Et après, j'ai des retours de parents qui disent ben, y a eu un vrai changement. Et je pense que c'est quelque chose, une guérison, oui. Il se passe vraiment quelque chose avec ce sacrement de la confession. Alors, je suis d'accord qu'il est difficile à donner. Et le Christ, quand on regarde comment sur la croix il pardonne, il ne dit pas au bourreau « Je vous pardonne ». Il dit « Père, pardonne-leur ». Et quand saint Étienne, qui est le premier des martyrs, qui meurt comme Jésus, lui, pareil, il ne dit pas « Je vous pardonne au bourreau », il s'adresse au Christ et il dit « Ne leur compte pas ce péché ». Donc là aussi, on passe par en haut. Et peut-être que j'ai du mal à pardonner, mais je veux pardonner. Voilà. Je veux donner ce pardon. Et je veux aussi le recevoir. Je veux progresser. Voilà. Et on est, comme on le disait, sur un chemin, et le Seigneur le voit. Et je pense qu'il faut du temps aussi pour... Le Seigneur, il nous connaît. Il sait que le cœur a besoin de temps aussi pour s'ouvrir et faire cette démarche. Je ne sais d'ailleurs pas si on arrive toujours à savoir quand est-ce qu'on pardonne. Il n'y a pas forcément un moment. Quelquefois, il y a un moment précis, comme dans la confession ou dans un échange de paroles, mais quelquefois, c'est petit à petit. Avec le temps, la grâce de Dieu a œuvré, notre cœur s'est un petit peu ramolli, c'est ouvert, on a, la nuque est devenue moins raide, et finalement, on s'aperçoit que ben, ça y est, on a pu pardonner.
Oui, mais je rajouterais aussi que le pardon est un acte gratuit, c'est-à-dire que Dieu nous le donne sans contrepartie. C'est-à-dire que il n'attend pas de nous, enfin c'est pas une récompense, on a souvent le tort, nous, d'attendre de l'autre qu'il demande pardon pour lui donner notre pardon. Bon, c'est quand même très très étrange, alors que en fait le pardon est l'acte ultime d'amour. Étymologiquement, pardon veut dire au-delà du don, donc c'est il y a encore quelque chose qui est encore plus fort que le don, que l'amour, c'est le pardon. Et l'amour qui est un acte gratuit. Si je vous dis je t'aime, peut-être que vous me direz, moi ça ne me dit rien, mais je vous l'aurais dit. Je ne vais pas attendre, je ne vous dis pas je t'aime pour que vous me disiez je t'aime. C'est gratuit, ça va dans un seul sens. Parfois ça va dans les deux sens, mais pas toujours. Mais le pardon c'est pareil. Et donc c'est donner, et c'est d'ailleurs ça qui est le plus dur finalement, mais c'est vraiment à l'image de ce que fait Dieu pour nous. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrepartie. Je montre simplement, je témoigne que je peux aller au-delà de la blessure et de ce que tu as fait, et que aller au-delà, ben, c'est cet acte d'amour ultime. Je te donne mon pardon. Ce sera peut-être mal reçu du reste de l'autre. Hein. Enfin, il y a des surprises, hein, parfois pas très bonnes. Mais ce que je disais tout à l'heure, je me libère parce que j'ai donné quelque chose. J'ai donné en fait à mon cœur. Cette paix et cette joie de dire je suis passé au-delà, puisque le Père aime beaucoup la montagne, moi j'aime beaucoup cette comparaison, c'est dire voilà, j'ai dépassé en fait cette souffrance, j'ai dépassé cette blessure, j'ai réussi à aller tout en haut. Souvent on se dit oh, c'est impardonnable, enfin, j'y arriverai jamais à pardonner, parce qu'on pense que en fait le pardon c'est la montagne. Mais en fait, le pardon, c'est nos blessures, c'est nos souffrances. Monter tout en haut de la montagne, pour y arriver, c'est le pardon, c'est notre équipement, c'est notre piolet, c'est tout notre équipement qui va nous permettre de monter jusqu'en haut de sa montagne, cette montagne, pour planter un drapeau sur lequel il y aura marqué paix et joie. C'est ça, cette quête gratuite que l'on cherche et qui n'attend pas de réciprocité. De même que quand Dieu nous donne le pardon, est-ce que vous disiez sur la croix, Jésus ne dit pas « bon alors, j'attends quelque chose », il attend rien du tout, Dieu, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font, comme Étienne. Donc il y a une gratuité dans cet amour, et c'est ce à quoi nous sommes invités.
Vous pensez que cette démarche de pardon, par exemple dans ce que vous avez vécu vous personnellement, Eric, mais on peut être prophète les uns des autres. C'est-à-dire que vous avez peut-être ouvert le cœur de votre maman en commençant la démarche, vous avez peut-être ouvert le cœur de votre sœur, ou vous-même avez été ouvert par l'aumônier de cet hôpital qui vous a mis sur la voie. Est-ce qu'on peut être tous, en fait, missionnaires d'une partie de nos démarches de pardon?
Alors, oui, sûrement. Enfin, oui, à l'évidence. Mais vous me faites penser à autre chose. Je suis désolé, je vais vous répondre un petit peu à côté, mais ça me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un élément moi, qui me paraît absolument essentiel pour qu'il y ait cette fécondité du pardon, c'est qu'elle trouve ses racines en fait dans la prière. Et en fait, si je reviens à l'histoire de papa, en fait, c'est absolument... je vous raconte en deux minutes. Donc au bout de 31 ans, 32 ans, donc papa tombé dans l'oubli, on ne fait plus partie de notre vie, on ne sait même pas s'il est mort, s'il est vivant. Je fais partie des équipes Notre-Dame avec mon épouse, et ce soir-là, je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin bref, on se met à parler de mon histoire et de l'histoire de papa, bon, plein de questions, etc. Et le prêtre qui est là, qui est notre conseiller spirituel, il me regarde dans les yeux, et très gentiment, mais avec beaucoup de fermeté, il me dit « Est-ce que tu pries pour ton papa ?» Et là, j'ai reçu un uppercut, parce que je ne priais pas pour papa. Ce qui était alors doublement idiot, parce que s'il était mort, il avait bien besoin de mes prières, et s'il était vivant, tout autant. À quel point l'oubli était... Et donc, je lui dis non. Et on me regarde avec la même bienveillance, et il me dit « Eh bien, tu devrais, quand vous parliez de prophète. » Donc je me suis mis à prier pour papa. Ben, l'événement que je racontais tout à l'heure où mon frère m'appelle pour me dire on a retrouvé papa est arrivé 6 mois après. Voilà. Donc en fait, alors la question après c'est si j'avais prié plus tôt pour papa, est-ce qu'on l'aurait découvert plus tôt? Je n'aurais jamais la réponse. Mais en tout cas, je ne peux m'empêcher. Et l'autre point, c'est que tout ce que nous avons vécu, du pardon et de cet amour, trouve aussi ses racines dans la prière de maman. C'est-à-dire que maman n'a jamais abîmé auprès de nous l'image de papa. Maman était une femme priante, et je suis profondément convaincu que c'est la fécondité de cette prière, peut-être de ma petite prière pendant les 6 mois là, mais surtout de la fécondité de la prière de maman. Et donc je pense que tout ce dont on parle ce soir ne peut véritablement pas éclore sans que ce soit enraciné dans la prière. Et du reste, Jésus sur la croix est bien une prière, comme vous le disiez. Père, pardonne-leur.
Et je rajouterais un petit quelque chose sur la persévérance, qu'on voit que votre maman a persévéré comme dans cette prière. Absolument. Et en fait, quand on entend un témoignage comme ça, bon, c'est assez fort, mais nous, quelquefois, c'est dans le quotidien, notamment pour nos péchés à nous, et on peut se décourager. Et c'est un drame, c'est le découragement. Je me rappelle d'un jeune qui m'a dit, mon père, il est jeune, donc il n'a pas encore beaucoup vécu, mais déjà lui, il disait, je fais toujours la même chose, ça ne s'améliore pas, j'ai tout essayé, même la confession. Alors, en fait, quand on avance dans la foi chrétienne et avec un lien avec Dieu, on ne s'en aperçoit pas. On ne s'aperçoit pas qu'on avance. Et même, alors ça c'est une très mauvaise nouvelle pour vous, jamais on arrivera à un moment où on se dise « ça y est, je suis un saint ». Non, ça n'arrivera pas. Et donc en fait, plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche de la lumière, et plus on voit nos péchés. Le Saint curé d'Ars, il avait peur d'être damné. Alors, si le curé d'Ars avait peur d'être damné, je suis désolé, mais alors, vous, je ne sais pas, mais moi, c'est mal barré. Mais lui, en fait, plus on s'approche de Dieu, voilà, plus on voit nos péchés, et donc il ne faut pas se juger. C'est pour ça que, attention à notre regard sur nous-mêmes, parce qu'en fait, quand j'étais tout jeune prêtre, je n'étais pas encore très expérimenté. Et quand quelqu'un venait me voir en me disant « Je ne me suis pas confessé depuis 20 ans », bien sûr, on ne doit pas réagir, hein. Je ne réagissais pas. Mais intérieurement, je me disais « 20 ans ?» Et j'ai trouvé que c'était long, mais surtout, je me disais « On n'est pas couché !» Alors qu'en réalité, quand la personne ne s'est pas confessée depuis 20 ans, elle a mis tellement de trucs dessus qu'elle me dit en général « Mais ça va. Des péchés ? Non. Bon, des péchés classiques, hein. Sinon, ça va. » Alors souvent, j'ai un grand sourire et je dis « Voulez-vous que je vous aide ?» Voilà. Et en fait, voilà. Il s'agit de ne pas se décourager. Oui, nos péchés, oui, on les voit. Et bien plus, ben on les voit. Mais merci Seigneur qui nous aide à faire ménage. Un peu comme moi quand je fais ranger le chalet aux jeunes et nettoyer, ils me disent « Là-haut, mon père, c'est nickel. » Je dis « Attendez, on va monter ensemble. » Et là, sous le lit, « Ah oui, ah tiens, ah c'est vrai. » Non, pas. Ben, le Seigneur, il fait pareil. Et petit à petit, on s'améliore. Mais comme il est avec sa lumière, voilà, paru humblement, il permet qu'on reste humble et donc on ne s'apercevra jamais. Donc il ne faut pas se décourager. Moi, l'image qui m'est la plus chère, et c'est pour ça que j'ai fait une commande pour mon ordination, j'ai dit ça assez large pour qu'il y en ait qui l'entendent, heureusement il y en a un qui l'a entendu, j'ai commandé un tableau de Saint-Pierre qui marche sur les eaux. Vous savez, il descend de la barque, il ne sait pas nager, il voit le Christ qui m'a, et il dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi ». Et le Seigneur lui dit « Viens !» Et il marche sur les eaux. Et tant qu'il regarde le Christ, ça va. Dès qu'il se regarde lui-même en se disant « Mais je suis nul, je ne sais pas nager. » Et là, il coule. Voilà. Et donc nous, la vie chrétienne, c'est regarder le Christ. Il ne faut pas trop qu'on regarde nos péchés. On regarde pour pouvoir demander pardon, mais ensuite, on a abandonné. D'ailleurs, abandonner, lâcher, c'est le mot pour pardonner. En grec, c'est le même mot. Dans notre Père, c'est abandonne-nous nos dettes, abandonne-nous nos offenses, lâche. C'est le même mot que quand les apôtres sont sur le bord du lac et Jésus les appelle et ils lâchent leur filet. Lâchant leur filet, ils le suivirent. Et bien là, on lâche. Donc en fait, le pardon, c'est on abandonne, voilà, on lâche. Et donc on arrête de se regarder soi-même et donc on se dit pas, oh, je progresse pas. Bien, on regarde le Christ et c'est ça qui nous fait avancer.
Alors, après la confession, on reçoit effectivement des grâces, d'amour, de paix. Et quels conseils vous pourriez donner pour essayer de marcher dans une forme de fidélité à cette grâce reçue ? Parce qu'en fait, on a l'impression d'être tout neuf, et puis la vie reprend la vie reprend ses droits quand même, et nos propres limites réapparaissent assez rapidement.
Oui, mais moi, je pense qu'on a besoin de se confesser régulièrement, comme on a besoin de laver sa chambre, nettoyer sa chambre régulièrement, ou se doucher aussi régulièrement. Ou comme laver les assiettes. Hein. Les jeunes, ils disent, ça sert à quoi de laver l'assiette ? On remange ce soir. Ah oui, ça, c'est sûr. À ce train-là, il y en a, ils font pareil pour la confession. Ça sert à quoi ? Je vais repêcher. Bah oui, je vais repêcher. Alors, il y en a qui se découragent en disant, oui, mais moi, quand même, est-ce que c'est honnête ? Est-ce que je sens que je vais repêcher. Alors, attention, le diable, alors lui, il est redoutable. Il fait, arrête d'être hypocrite. Tu vas de nouveau pécher et te reconfesser. Ne sois pas hypocrite. Ah oui, il ne faut pas que je sois hypocrite. Voilà. Eh bien, écoute, dit le diable, j'ai une bonne manière de ne pas être hypocrite. Tu ne vas plus te confesser. Voilà. Ah oui, d'accord. Non. J'y retourne sans cesse. Un jour, un jeune me dit, à la fin de la confession, il me fait, mais je dis que je prends la ferme résolution de ne plus pécher. Mais je sais par expérience que je vais repêcher. Hein. Alors je lui ai dit, mais est-ce que si jamais tu ne péchais plus du tout, t'en serais heureux ? Il m'a dit, Oh, j'aimerais tellement. Ben, je dis, voilà, c'est ce que Dieu veut. Voilà, c'est bon. Hop, top, top. C'est... Ah.
Donc ça veut dire qu'effectivement, on est, on n'a pas à se soucier d'être vraiment des hommes et d'être emprunt effectivement de ces limites.
Alors, je pense que la confession régulière, je pense qu'il faut se confesser quand même régulièrement. Et ça, ça nous met dans un état d'esprit de louange, ça nous tourne vers Dieu. Voilà. Et on prend un état de pénitence où les orientaux ils disent « Seigneur, fils du Dieu sauveur, prends pitié de moi pécheur » ou « Seigneur, prends pitié, Kyrie eleison ». Régulièrement, on reconnaît qu'on est un pauvre pécheur, qu'on a besoin de se retourner vers Dieu. C'est ce que disait le curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Et donc, notre état d'esprit de chrétien, c'est de savoir qu'on est un pauvre, mais qu'on a besoin de Dieu. Et qu'on ne se dise pas un jour, « Oh non, mais j'abuse de la miséricorde de Dieu. Non, mais je vais me confesser. J'abuse. » Ben, on n'abuse pas. Alors, on pourrait dire de la confession, ce que le curé d'Ars disait à propos de la messe, les gens disent « J'en suis pas digne ». Le curé d'Ars disait « Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne. Vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. » Voilà.
Est-ce que vous en pensez, Eric?
Ah non, moi c'est...
De cette dignité.
De cette dignité écoutez, encore une fois, c'est ce que moi j'ai vécu avec papa, où il se sentait tellement... tellement abîmé et tellement... tellement abîmé par son péché qu'il ne se sentait plus digne de grand chose. Je vais vous dire, à un moment donné, il m'a dit j'ai appris par un détour de conversation, à un moment donné il me dit je voudrais me faire incinérer. Bon, je trouvais ça surprenant, cette génération, à l'époque c'était pas très répandu, bon, enfin je me dis pourquoi pas. Bon, ben, j'ai dit quand même, mais pourquoi? Et il me dit, parce que je ne veux plus laisser aucune trace de moi sur cette terre. Vous voyez où va la dignité et la culpabilisation? C'est effrayant. Et donc c'est-à-dire qu'il pensait même, après sa mort, déjà il avait disparu, il était revenu, et il était encore dans ce phénomène où il disait, mais même le jour où je ne serai plus là, je veux que je disparaisse complètement. Donc il y a cette perte de dignité totale. Et ça, j'ai trouvé ça effrayant. Alors pareil, je suis, on va rester comme ça. Et pareil, le monument dit, attendez, etc. Et pareil, la fécondité de ce que j'évoquais tout à l'heure, de tout ce que j'ai vécu avec lui, peu de temps avant sa mort, un jour... L'assistante sociale me dit au fait, comme si c'était une anecdote, je voulais vous dire, votre papa est revenu sur ses conditions d'obsèques. Il se fera enterrer, mais mieux que ça, il laisse le soin à la famille de s'en occuper. Pour la première fois depuis 33 ans, papa refaisait confiance. Donc, d'un homme qui avait perdu toute dignité au point d'anticiper. Le futur après sa mort, de façon terrible, ben finalement là aussi il avait restauré son image propre pour lui, et finalement de se dire, ben, je serais heureux que ce jour-là, ce soit ma famille qui soit là, la famille qui s'en occupe, parce que finalement je l'ai retrouvé. Hein, j'ai retrouvé ma place, en fait, de père, de mari, c'est tout ce que ça voulait dire. Donc, oui, bien sûr.
Merci. Est-ce que vous auriez des questions pour nos intervenants ce soir? Des choses qui vous touchent?
Pendant que vous pensez à vos questions, une image qui m'est venue en tête en vous écoutant, c'est une image de prison et que vous avez chacun en train de payer sa dette, de tout ce qu'il est fait de mal. Et c'est là où le Seigneur nous offre la clé de sa cellule. Il dit, ou voleur. Et quand Jésus dit « pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », en fait, je réfléchissais, je dis, mais en fait, ce n'est pas au bureau où ils parlent, en fait, ils parlent à nous. Voilà. Et que son œuvre, c'est de, que le pardon règne sur terre. C'est la raison pour laquelle il est venu. Et, mais il veut que nous s'associons à son œuvre pour que nous aussi, du même cœur, on est capable de dire, mais Seigneur, cette dette qui est colossale, je te demande de ne pas prendre en compte. Et je te libère. Et quand tu commences à prier pour lui, je crois à la fois c'est Dieu qui à travers vos prières, sûrement à travers le cœur de votre papa. Mais je me suis dit, c'est aussi Dieu qui a inspiré ce prêtre de vous insister là-dessus, pour que le jour que le Seigneur est capable de vous montrer les clés de sa cellule, ton cœur se sera déjà disposé ou prédisposé depuis 6 mois. Oui, de dire, je suis d'accord, là où on a communion entre moi et Dieu.
Oui. Non, oui, je suis d'accord. La puissance de l'Esprit Saint.
Et c'est, en fait, c'est tout pardon. Quand il disait, le Père dit, mais ah, je ne sais pas si j'arriverai à pardonner, quand vous racontez cette fille que je n'arrive pas. Mais qui a dit que c'est notre œuvre? Ce n'est pas notre œuvre de pardonner les autres. C'est l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas, ouais, pas notre force qu'on va arriver. C'est juste, est-ce que j'accepte que Dieu me donne cette force de le faire? Voilà. Ça y est, vous avez trouvé vos questions? Oui.
Merci.
Je n'évoque pas la question de la colère. Je pense que quand on est abandonné, la colère, c'est un sentiment évident, immédiat. Et je suis très étonné que tu n'en parles pas, que tu, apparemment, que ça n'ait pas été un problème pour toi.
Non, elle n'a pas existé. Alors, je ne dis pas que dans toute mon enfance, mon adolescence, il n'y a pas eu des moments, je m'en souviens. Ah, si papa avait été là, ah, si, ah, c'est sûr que. Bon. Mais, en fait, pour toutes les raisons que j'ai évoquées jusque-là, mais en même temps, je pense que comme Dieu donne en abondance, je crois en même temps qu'on a reçu vraiment une grâce qui est, dès le départ, finalement, de ne pas vivre dans ce ressentiment. Et donc, la vie a été plus forte. Je vais vous dire quelque chose qui pourra peut-être vous heurter, mais j'ai coutume de dire, j'ai eu une enfance heureuse. Parce que maman, parce que les amis, parce que la vie, parce que j'ai fait plein de choses. Et alors même si j'ai réalisé, quand je suis arrivé à l'âge adulte, que j'étais quand même... c'était un peu bancal, que j'étais quand même un peu abîmé, donc il y a des choses qui ont eu besoin d'être restaurées. Mais l'insouciance que j'avais, ouais, et puis je pense l'amour, la cellule familiale qui s'est maintenue, et encore une fois, là où maman a été une force d'âme incroyable, c'est qu'elle n'a jamais abîmé l'image de papa auprès de nous, c'est-à-dire tout en disant le mal qu'il avait fait, elle était capable aussi de me dire à quel point il était gentil, à quel point il était attentionné, à quel point il avait tant de qualités. Et ça, je pense que pour des parents, c'est quand on rencontre ce genre d'épreuve, c'est très très important pour les enfants, et ça, je pense que c'est vraiment une grâce qu'on a reçue. C'est que voilà, maman ne nous a pas du tout partagé, en dépit des souffrances qu'elle vivait, elle ne nous les a pas fait supporter, elle ne nous les a pas transférées. Et donc du coup, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la colère n'est pas passée. Je comprends que ça puisse être mystérieux, hein, mais je vous le livre tel que je l'ai vécu. Et de ce fait, J'ai toujours aimé mon papa. En dépit de ce qu'il avait fait. Toujours, toujours, toujours.
Autre question.
Une question pour le père. À un moment, vous avez dit qu'une personne n'arrivait pas à se confesser et vous lui avez dit « je vais t'aider ». Comment est-ce que vous aidez ?
Alors, c'est vrai que je pense que ce qui aide le plus, alors je fais deux ordres d'aide, les plus grands et puis les jeunes. Les plus grands, ce qui aide le plus, c'est de parler de l'amour fou de Dieu pour nous. C'est ça qui ouvre le cœur et qui fait qu'on peut voir plus. Sinon, en fait, on est dur, on a un regard dur sur Dieu et du coup, on se ferme et du coup, on ne voit pas nos péchés, on ne laisse pas passer la lumière. Voilà. En gros, je lui propose d'ouvrir les volets pour que la lumière entre dans la pièce. Donc, c'est ce que je peux t'aider à ouvrir. Donc, avoir l'amour de Dieu fou. Voilà. Et pour les jeunes, je leur dis si vous voulez, je peux lister un peu les grands péchés que peuvent faire des jeunes. Et comme ça, c'est plus facile pour vous, au moins pour la première fois. Il suffira de dire oui. Et alors ça, c'est pour qui c'est difficile. Alors, ils sont très contents. Et puis quand je vois qu'ils disent trop oui, je force la dose du péché en disant « est-ce que tu as tué quelqu'un ?»« Ah non voilà. !» Pour aider, effectivement, il me semble que que le prêtre est là pour un peu comme un accoucheur, quoi. Voilà, qui va aider à ce qu'on puisse dire les choses. Voilà, un peu comme ce lieutenant qui allait se confesser, le prêtre qui disait bien. Alors, comme je raconte ça tout le temps, je fais attention à pas dire bien en confession parce que sinon ils vont rigoler. Mais voilà, il me semble que c'est l'amour qu'on a, alors qu'il faut faire attention, hein, on reste chacun à sa place, hein, pendant la confession, mais il faut que la personne voit comment on aime. On a tous connu des prêtres un peu raides, enfin peut-être pas tous, hein, peut-être que vous avez eu, mais moi, quelquefois, je me suis dit, mais alors lui, dis donc, non mais. Il y en a certains, j'ai envie de leur offrir mon livre. Non, mais en même temps, même à travers un prêtre qui peut être un peu grincheux ou autre, je m'épate, je suis épaté. Le Seigneur, il fait des merveilles avec des pauvres types. Enfin, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, moi, je dis toujours qu'il a raclé les fonds de tiroir. Il a dû tirer le tiroir, il reste... Il me faut des clients, il me faut des prêtres quand même. Donc il a tiré, il a trouvé Gaspard, il a fait. Parce que moi, quand j'ai senti l'appel de Dieu, je me suis dit, il a vraiment personne. Hein.
Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Ah. Pardon, il était plus proche.
Une question rapide pour Eric. Merci pour le point sur la colère. Moi, j'ai l'impression que si j'avais rencontré votre père dans ces conditions, j'aurais eu besoin de comprendre. Mais papa, pourquoi t'es parti ? Pourquoi t'as fait ça ? Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 33 ans ? Est-ce que c'est des points que vous avez abordés ? Vous n'avez pas eu besoin de ça pour donner votre pardon ?
Je ne lui ai pas posé la question. Alors, c'est pareil, parfois c'est difficile à comprendre, mais je ne lui ai pas posé la question. Et aujourd'hui, où mon frère a récupéré le dossier que l'assistante sociale a reconstitué pour reconstituer sa carrière, pour financer la maison de retraite, etc. Enfin, elle a fait tout son travail de tout reconstituer. Mon frère a le dossier, il m'a souvent dit « Eric, j'ai tout à la maison, si tu veux aller le regarder ». Et je n'y suis jamais allé. En fait, pour moi, ce que j'ai vécu avec papa, avec lui quand j'étais petit, et avec lui quand j'étais plus âgé, lorsque je l'ai retrouvé, était quelque chose de tellement fort que tout le reste est devenu secondaire. Donc là aussi c'est une question, et aujourd'hui on ne sait pas pourquoi il est parti, véritablement, les hypothèses sont toujours en cours, mais bon, et on ne sait pas. pas très, en tout cas, je ne sais pas véritablement ce qui s'est passé pendant ces 33 ans. Figurez-vous quand même que, alors papa était très sociable, quelqu'un qui était très gentil, ben, on n'a pas retrouvé un ami, pas une femme, pas de demi-frère, personne. Comme si le jour où il avait quitté l'appartement, et le jour où on l'avait retrouvé, il ne s'était rien passé. Ça peut paraître incroyable, mais c'est comme ça. Et en tout cas, moi, cette période-là, en fait, pour moi, c'était le passé. Je vivais le présent avec papa, et ce présent-là, parce que je vous en ai fait que quelques petites tranches, mais je peux vous garantir que ce que l'Esprit Saint a permis dans cette période-là pour que papa se redresse, tout ce à quoi nous avons assisté, a tellement été vertigineux et au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, que toutes les autres questions sont devenues secondaires. Et je pense que ma sœur était dans le même état. Mon frère et ma sœur ne savent pas beaucoup plus en dehors du dossier de l'assistante sociale.
C'est intéressant parce que ça me fait penser, parce qu'il y a des jeunes qui me disent « Mais quand même, tous ces péchés que vous entendez, ça vous pose pas sur le moral. » Mais en fait, moi, c'est exact, je m'y retrouve. C'est-à-dire que moi, ce qui m'importe, c'est le pardon. On reçoit le pardon, c'est tellement extraordinaire. La personne est ressuscitée. Ah oui. Et le reste, on s'en fiche.
Oui, on s'en fiche. Ouais. Ah oui, c'est là, voilà, exactement ça. Merci.
Oui, vous disiez que pardonner n'est pas oublier, qu'il restait des cicatrices, qui cicatrisaient plus ou moins bien. Mais dans le cas de la confession, le péché est-il totalement effacé? Il n'en reste rien? Ou reste-t-il des cicatrices parce qu'il y aura un jugement particulier? On compte nos cicatrices? On compte les cicatrices qu'on a laissées chez les autres?
Alors, c'est vrai que par rapport aux cicatrices, enfin, aux blessures qu'on a pu infliger aux autres et tout ça, c'est pour ça qu'il y a la pénitence, la question de la réparation qu'on doit faire, qui est souvent petite dans celle que donne le prêtre, parce que l'Église voit bien que c'est souvent compliqué. Un jeune qui m'a dit, qui est venu me voir une fois, il m'a dit, avec tout ce que je vous ai dit, vous m'avez donné que ça comme pénitence. J'ai dit, si tu veux t'en trouver une plus grande, tu peux. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que ça a été la galère, t'as mis plusieurs jours à venir te confesser. Alors c'est vrai, mon père. C'était quoi? Il a presque rampé, c'était complexe. Donc il y a la pénitence. Et ensuite, effectivement, le péché nous a blessés quand même. Ça, c'est vrai. Et alors, pour chaque péché qu'on dit, Dieu donne des grâces de réconciliation, de paix, pour chacun des péchés. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir faire un examen de conscience un peu clair. Mais ensuite, on s'abandonne à la miséricorde de Dieu, et c'est lui qui gère. Voilà. Moi, j'aime bien dire que Dieu gère, et qu'il gère bien. Voilà. Et donc, faut pas trop qu'on... Voilà. Mais c'est sûr que quand même... Par exemple, si on se dit, s'il y a des jeunes qui me disent ça, « Oh, alors j'ai fait ça, mais j'ai aussi comme péché d'avoir fait ce péché en pensant, de toute façon, j'irai me confesser. » Et donc, qu'ils sachent que, en fait, on se blesse pendant... On se blesse aussi. Et donc, l'amour de Dieu consiste à dire, « Non, Seigneur, aide-moi et je veux plus pécher. » Voilà. Mais Dieu, il est miséricordieux et il se lasse jamais de confesser jusqu'à 70 fois cette fois. Et c'est symbolique pour dire... j'ai rajouté une petite phrase du curé d'Ars. Il y a des péchés qui sont difficiles à dire et qu'on a envie de cacher. Il faut les dire, quoi. Il y a un jeune qui me dit, est-ce qu'on doit tout dire? Je dis, il faut dire les péchés graves. Ce que tu as envie de me dire, est-ce que c'est grave? Oh oui. Alors je t'écoute. Oh non. Bon, il a fini par le dire. Mais j'aime bien la phrase du curé d'Ars. Si vous voulez cacher un péché, il faut le confesser. Il n'y a pas de meilleure cachette, il disparaît.
Ouais. C'est beau ça, non? Apparemment, il était sympa, le curé d'Ars. Plein de sagesse. Donc, je propose qu'on termine une prière encore. Voilà. On vous embête avec tout ça. Remercier nos deux intervenants pour leur présence.
Je vous ai dit qu'Éric finit sa longue carrière d'évangélisateur par des spectacles voilà, un peu exceptionnelle. Et le 28 et le 29 mars, pour la dernière fois, se produit Yeshua sur la vie de Saint-Jean et sur l'évangile de Saint-Jean à Rueil, donc tout près d'ici. Et il reste des places. Donc si vous voulez travailler à la mission, invitez largement vos familles et vos amis à ce spectacle d'évangélisation à Rueil le 28 et le 29 mars. Et par ailleurs, au fond de l'église, il y a les livres à acheter, le livre.
Et malheureusement, ton livre, Eric, il est en rupture de stock. Tu n'es pas au courant? Tu es trop vendu? Et dans notre librairie, elle n'a pas réussi de s'approvisionner de cela. Donc, je vous demande tous d'écrire à Atège, de dire c'est pas possible, il faut le rééditer. Voilà. Donc, c'est la première chose. Le deuxième, c'est votre livre est là, que vous pouvez dédicacer. Donc, oui, je ne sais pas, mais osez découvrir que ce qui est là. Et sinon, vous pouvez commander ceux qui ne sont pas. En parlant de livres, je vais vous faire un petit cadeau d'une magnifique BD que vous connaissez tous, sur le vie de notre saint patron. Dites-moi, est-ce que vous connaissez quelque chose de la vie de Saint-Cloud ? Saint-Cloud. Thank you ? Non, c'est Saint-Cloud. Donc là, vous allez découvrir en version BD le magnifique Prince du pardon. Donc ça tombe bien qu'il a su pardonner de façon extraordinaire, qu'il donnait la joie de vivre et la joie d'évangéliser ces magnifiques coteaux que s'appelle aujourd'hui Saint-Cloud. Donc merci à vous. Et donc peut-être on va se tourner vers la Vierge Marie, celle qui a aussi su pardonner ceux qui ont fait tant de mal à son fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Alors, merci.